Info Club Sandwich.
Votre rendez-vous d'actualité locale, associative et culturelle.
Sur Radio Campus Amiens.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Campus Amiens, c'est Hugo pour Info Club Sandwich. Aujourd'hui, focus sur Médée 3D, un cycle de performances artistiques organisé par le Conservatoire dans le cadre des rencontres régionales d'électroacoustique, en partenariat notamment avec la briqueterie. Alors pour découvrir tout ça, rendez-vous du 19 au 22 février au Micmac. Et pour en savoir plus, j'accueille Olivier Supt, metteur en scène notamment sur ce cycle. Bonjour.
Bonjour.
Alors c'est 4 soirs, 4 performances donc entre théâtre et son, sur 4 textes d'un dramaturge allemand, Heiner Müller. Bah, est-ce qu'on peut expliquer un peu voilà, ce que vont donner ces 4 tableaux du coup, qui vont être présentés au Micmac?
Alors voilà, c'est l'histoire d'un bonhomme extraordinaire, parce que donc, Heiner Müller, c'est un Allemand lambda, n'est-ce pas, qui son papa est arrêté par les nazis dans les années 30, et lui-même vit une enfance mais bercée un peu malheureusement par la guerre, il est jeune. Et il fait sa jeunesse, il arrive, boum, et d'un seul coup, on va couper l'Europe en deux. Et lui qui habitait sur un territoire, une ville, qui va après appartenir à la République fédérale allemande, donc l'Ouest, hein, la main de l'Ouest, va décider avec d'autres, par tellement de peur, de trouille, de l'avenir de cette fin de guerre mondiale et de l'avenir de ce qui allait se passer, tellement de trouille de plein de gens du monde américain qui allait arriver, c'est-à-dire les dollars, la violence, et l'abandon de sécurité, l'abandon de... Voilà, un monde livré à lui-même. Il faut penser à des millions de gens, non seulement bien sûr décédés, assassinés, etc. Des centaines de millions de gens déplacés. Enfin, une horreur complète qui baigne l'esprit des gens et leur physique, leur quotidien, leur famille bouleversée. Mais en plus, qu'est-ce que sera l'avenir? On doit choisir très vite entre deux mondes. Et lui, bah, comme plein d'autres, il choisit non pas de rester dans la future RFA, mais il bascule en la future République démocratique allemande. La fameuse RDA qui prendra fin avec la fin du mur, dont on a fêté soi-disant la fin avec l'anniversaire des 40 ans de la chute du mur de Berlin. Plus d'une aberration complète. Cette fissure européenne existe depuis des millénaires. C'est une cassure qui court de la mer Baltique jusqu'au Bosphore, donc ça coupe quasiment, c'est la rupture entre le continent dit pour nous européens à ouest, mais aussi entre l'Orient. Enfin, c'est une cassure culturelle, géographique, par les massifs montagneux, par tout ce qu'on veut, le chaud, le froid. Le continent, l'Atlantique d'un autre côté, le continent russe gigantesque. Et donc cette cassure qui a été révélée encore une fois par ce séisme de la Seconde Guerre mondiale, bah, il continue à exister. On n'arrête pas de le colmater, il se refissure. Et même l'Allemagne n'arrive pas à se colmater aujourd'hui.
Et alors, du coup, l'œuvre de Heiner Müller est imprégnée de tout ça?
Bah, alors cet homme-là, bah, c'est un Allemand typique, c'est-à-dire qu'il se trouve coincé dans tout ça. Donc par exemple, c'est un homme qui se décrit lui-même entre deux dictatures. Entre l'enfance passée dans un nazisme, Hitlerjugend, etc., et une adolescence, enfin être jeune homme, puis être artiste créateur dans un domaine qui est un peu stalinien, et dans ce domaine, une république qui a toujours été très particulière vis-à-vis de son contact avec l'Occident. Donc c'est une espèce de tampon pas possible, de tampon mou, et là-dedans, ce qui est fascinant, qu'est-ce qui va suinter entre ces deux blocs? La fascination de l'Ouest, quand on est à l'Est, on veut absolument un jean ou un paquet de Marlboro. Et qu'est-ce qui va suinter vers l'Est? Vers l'Ouest. Et donc, c'est là qu'intervient, par exemple, le traducteur Jean Jourdeuil, qui à l'époque passe en fraude les textes de cet auteur pour qu'ils soient joués à l'Ouest. Donc c'est un paradoxe fou. À la fois, ce type, Heiner Müller, je dis ce type, c'est un grand bonhomme pour moi. Et il est même dissident dans son pays. C'est-à-dire qu'il exclut à l'époque de ce qu'on appelle l'union des écrivains.
Oui, il a subi la censure.
Alors, c'est pas la censure, non, on ne vous met pas en prison forcément, mais vous ne travaillez pas, vous n'avez pas de contrat, etc. etc. Donc, il se trouve, de fait, dans les difficultés. Et un peu à la fois, par son travail annexe, il n'est pas seulement auteur, il est aussi dramaturge. Dramaturge en allemand, c'est aussi gestionnaire, c'est-à-dire qu'en fait, il organise des mises en scène, etc., de textes, eux, validés par un pouvoir. Mais son œuvre elle-même aura beaucoup de mal à exister en tant pour lui en tant qu'expression individuelle. Donc là, on trouve un chat, une espèce de verrou, hein, comme il y avait ces Checkpoint Charlie, par exemple, à Berlin, où se passait beaucoup de choses. Il n'y a pas que de l'argent ou des gens qui passaient, mais aussi des idées. Et donc là, on trouve un homme qui est devenu mon ami, qui est Jean Jourdeuil, qui maintenant, bon, on ne dit plus son âge, mais c'est un des papas du théâtre français, universitaire, et qui sera avec nous. Le premier soir, qui balance les textes, les traduit, tombe fou amoureux de cet univers et décide de le traduire, de le promouvoir. Notamment grâce aux éditions de Minuit, qui sont toujours une température un peu particulière. Hein. Minuit, c'est Beckett, par exemple. Hein. C'est... Mm. Bon. Et nous voici donc avec ces textes fous, parce que Müller parle en allemand, Jourdeuil le traduit en français, enfin le traduit, le réinterprète, le réécrit. Et pour finir, nous, on propose d'autres écritures. Donc c'est sans arrêt interpréter l'interprétation d'un discours qui aurait dû avoir lieu. C'est quelque chose sans fin. Donc, c'est ce puits sans fond dans lequel on convie un peu les gens. Puisque là, non seulement ce texte, c'est plusieurs textes écrits à des décennies quelquefois de distance, mais que l'auteur lui-même avait rassemblé sous le thème global de Médée, qui est un mythe dont j'espère on pourra parler un petit peu.
Bah oui, donc tiré de la mythologie grecque, qui intéressait particulièrement Einar Müller.
C'est un mythe qui ressurgit, un littérateur depuis 2500 ou 3000 ans. Bon, alors l'histoire est simple, Une femme appelée Médée.
On va essayer de résumer.
Mettons, c'est pas compliqué. Vous avez un grec, on dirait un blanc, bon teint, de famille aristocrate. Très très bon temps, un roi, un fils de roi qui prendra le trône et qui part en conquête parce qu'on ne peut pas exister si on n'a pas fait la guerre, remporté des conquêtes. Donc il détruit Corinthe, hein, il tue tout le monde, etc. Et dans le butin, il ramène sa future femme, donc Médée. Il aura deux enfants, mais elle sera toujours l'étrangère, la barbare, l'autre, la métèque. Là, on ne sait pas trop ce qui donnera plus tard d'autres personnages d'ailleurs hein, dans l'imaginaire. Et à peine revenu évidemment dans son royaume, papa lui dit, si tu veux le trône, il faudra quand même épouser une bonne fille, bon teint, bon genre. Et donc il va répudier Médée et pour épouser une jeune fille de l'aristocratie, bon teint. Et donc Médée, sachant ça, c'est ce qu'il attend en fait. Ce qu'il attend, c'est pas seulement la répudiation, c'est l'exil, encore une fois, exilé de chez elle par la capture, violé pour finir de deux enfants qui seront eux-mêmes assassinés, pour ne pas être des bâtards qui pourraient prétendre à un trône. Donc de ce fait, qu'est-ce qu'elle fait la pauvre ? La vengeance. Une chose horrible, avec un sommet qui est très, très rarement évoqué ailleurs que là, en littérature, qui est le matricide. Donc non seulement elle va assassiner sa rivale en faisant cadeau d'une tunique extraordinaire, qui va la brûler, cette pauvre jeune fille vierge qui sera la future pondeuse d'héritière légale, donc elle condamne ce trône à la stérilité, la fin, l'extinction de la branche royale classique, et elle-même s'est pourchassée, donc elle sera pourchassée, sans doute tuée, et ses enfants aussi. Et donc elle décide, chose horrible, de tuer ses propres enfants avant de, selon les versions, se suicider ou disparaître, avec une vertu d'étrangère, donc forcément de magicienne, celle qui connaît les poisons. Bon, c'est horrible.
Oui, particulièrement, mais on c'est comprend terrifiant. Que ça inspire beaucoup d'auteurs encore aujourd'hui, ce mythe.
Avec crainte, mais aussi des psychanalystes ont très peur de ça, parce qu'il y a des logiques qui mènent au matricide. Et c'est épouvantable, enfin, on ne peut pas faire pire que ça, en tuer ses propres enfants, qu'on soit homme ou femme, ou ses propres parents en général, ou sa femme ou son mari, c'est épouvantable, c'est le plus proche. Tuer un inconnu, c'est compliqué, mais tuer quelqu'un de très proche, c'est encore pire.
Alors comment on réfléchit à la mise en scène, à la scénographie de texte d'Einar Müller? Comment vous avez réfléchi à cette mise en scène?
Ça prend beaucoup de temps, c'est-à-dire que c'est évidemment qu'on replonge dans le mythe, on replonge dans l'univers grec, le mental grec, mais aussi les autres qui se sont emparés de ça, et pourquoi lui a fait ressurgir ça au XXe siècle, puisque maintenant on est au XXIe. Bon, et pourquoi ça m'intéresse encore moi, qui suis plutôt aussi du XXIe, j'espère, pour un petit moment. Donc... ça, c'est pas évident. Il y a plus de 20 ans, j'avais déjà fait un stage à Avdas en tant que metteur en scène. J'avais dirigé des gens avec un auteur contemporain autour de Médée.
Oui.
Mais comme j'avais aussi cherché avec d'autres, ça c'était aussi une formation que j'avais faite pour des metteurs en scène. Hein, donc je dirigeais des metteurs en scène en fait. Je travaillais sur un des textes que j'approche aujourd'hui. Mais c'était toujours sous thème de la recherche. Et donc ça traînait dans mes envies, vous savez, c'est terrible ça. Et j'ai dit, l'auteur lui-même avait décidé d'un cycle, donc trois textes, et j'en ai adjoint un quatrième.
Et là, on est entre... Donc c'est des performances entre théâtre et son?
C'est épouvantable, là aussi. Alors, on parlait tout à l'heure d'un mythe qui traverse comme ça mes différentes langues.
Ouais.
Bon, très bien, on a travaillé sur celle, bien sûr, en langue allemande, parce qu'il y a déjà des choses qui ne passent jamais d'une langue à l'autre. Moi-même, je suis flamand, donc je suis d'une culture germanique, et non pas latine. Donc il y a des choses qui parlent en moi dans la façon dont fait Müller, si vous voulez, dans son travail. Et le traducteur, lui, a une écriture très française. Et donc des fois, on se renvoie des choses comme ça qui relèvent purement de la traduction. De la compréhension, c'est déjà un problème. Traduire, c'est déjà trahir. Ça, c'est un vieux débat. On décide de trahir encore plus. C'est-à-dire de dire, bon, ok, on prend ces textes. Là, ils seront joués en intégrale. Alors attention, le texte en intégrale, ça veut dire aussi trafiquer, pris dans la magie que permet aujourd'hui, se poser la question avec des outils que sont, bien sûr, vous en avez des micros, des platines, des générateurs, tout ce qu'on veut, etc. De décortiquer ce que c'est qu'en fait une vibration. De paroles, et donc de voir ce qui résiste ou ce qui passe là-dedans pour une émotion, une idée, une image. Est-ce que quand je dis le mot oiseau, j'entends voler ? Ah ben c'est pas évident. Si je veux que l'oiseau commence à voler, je vais devoir travailler pendant des heures sur le mot oiseau, enfin le mot, le son, on ne sait plus quoi dire après. C'est un ensemble. Et comme le théâtre, c'est de la parole en action, on s'est toujours référé à un texte malgré tout. Si c'est un canevas ou autre chose, ça reste un texte de départ. Eh bien, pour en faire quelque chose de vivant devant les gens, oulala, c'est une forêt de signes qu'on met en l'air en suspens comme ça. On jette des pièces en l'air et puis on voit ce qui retombe un petit peu. Et ce qui est beau, c'est de voir quand les pièces commencent à flotter. Mais ça, je vous le dis, c'est un petit secret, ça sera quand les billets de banque commenceront à flotter. C'est une blague.
Là, du coup, vous avez travaillé avec le conservatoire.
Ce qui est extraordinaire, c'est que là, en plus, le premier soir, c'est sera une soirée magique. Parce qu'on aura donc Jean Jourdeuil qui vient de Paris,
oui.
Pour nous faire nous parler du... Ça y est, il clôt le cycle, parce qu'il est âgé maintenant aussi, mais il arrive aussi à... c'est la parution du dernier tome des conversations et entretiens de Heiner Müller, jusqu'à son décès. Et c'est une période très intéressante, très importante, c'est un peu la conclusion d'une vie entière de création. Donc c'est aussi, ça correspond à la fin d'une époque. On croit être sorti de cette guerre froide et on y est en plein dedans, c'est la guerre glacée. Je ne sais pas comment on pourrait dire maintenant, mais on y est toujours. Donc et on va retrouver en même temps avec nous des gens qui ont fondé la discipline de l'électroacoustique. C'est-à-dire que c'est à l'époque aussi, c'était la fascination. Vous voyez un petit peu Star Trek pour ceux qui aiment les séries à l'ancienne et tout, mais alors là... On rêve, c'est-à-dire des choses bricolées avec des bouts de planches, des types qui soudent des bouts de ce qui sera les circuits. Mais ce sont les ancêtres, en fait, des synthétiseurs. C'est-à-dire des gens qui vont vraiment essayer d'analyser le son, de le découper dans tous les sens et de le reproduire, mais comme étant un son neutre. Faire écouter une cascade, oui, je prends un micro, je prends une cascade. Bon, c'est une cascade. Si maintenant je veux donner l'idée d'une cascade, je peux travailler pendant très très longtemps. Il ne faut pas que ça ressemble, mais ça doit être la cascade. Je trouvais la cascade de toutes les cascades. Donc, ce sont des gens qui ont cherché, qui ont beaucoup bricolé. Et il y a très peu d'endroits en fait en France, parce que très vite après derrière sont arrivés les synthétiseurs. Et ça a éteint cette branche purement scientifique. Il faut voir le type à l'époque sans blouse blanche. On note très sérieusement des sinusoïdales, on fait des ellipses, on fait des calculs très scientifiques. Enfin, il y a une espèce d'acharnement comme ça. C'est un peu l'époque, je vous dis, de Star Trek, autre chose aussi. Il faut voir ça. Donc, on a la chance à Amiens d'avoir un des fondateurs de cette discipline. Et c'est comme ça que sur ses fonds propres, c'est-à-dire sur sa collection d'outils qu'on ne trouvera jamais en magasin, c'est ce qui a fait en fait le fonds de dotation du conservatoire pour créer la classe d'électroacoustique. Et donc, on va retrouver, parce qu'on les a rassemblés un petit peu comme ça, c'est des gens qui ne se sont pas vus des fois depuis 30 ans, 40 ans, mais c'est un petit peu les papis qui font de la résistance du son, si vous voulez, c'est extraordinaire, quoi. On va voir des trucs, là, des pépites. Des gens qui ont dit, oui, mais ils vont s'engueuler sur qu'est-ce que c'est que le son de machin, qu'est-ce que tu as fait il y a 30 ans là-dessus. On est chez Messiaen, on est chez des gens comme ça au niveau de la musique, mais ils ont travaillé, tous ces gens-là. Donc c'est un patrimoine, ça j'aimerais que les gens qui nous écoutent comprennent ça, c'est que c'est, oui, bon, très bien, maintenant on charge en MP3, mais un musicien, il s'en fout, il prend une guitare, ça peut être une vraie casserole, il va trouver tout l'éventail d'effets. Alors ça marche parce que ce sont des effets qui ont été travaillés, rentrés et complètement décortiqués, qui ont été construits. Là on consomme, là on a affaire aux fabricants de tout ça, qui sont capables de tordre un outil, et non pas de s'en servir, mais de le tordre. Et de prévoir la torsion dès la création de l'outil. Alors ça, c'est du régal. Ça, c'est de la planche pour vous, ça.
Et donc ce spectacle, vous l'avez travaillé avec Françoise Véter,
oui,
qui est également créatrice sonore parmi d'autres activités,
oui,
c'est ça?
Oui. Et ça, c'est... Moi, c'est pas mon domaine d'origine. Moi, je fais
beaucoup... c'est pour ça que je précisais. Voilà, ouais, vous avez travaillé en duo, notamment sur.
Ben, c'est une rencontre, mais c'est un peu pour moi une découverte parce que j'ai fait beaucoup de mise en scène auparavant, mais avec toujours très souvent des régisseurs, mais qui étaient associés à la création à part entière, autant responsables de la création, coupables hein, que moi, mais qui étaient très très souvent des musiciens, des fous furieux. C'est les premiers qui avaient chez eux des home studios. Dans les 85-90, faut voir ce que c'est, quoi. Les types étaient des fous furieux capables d'avaler 800 pages de notices de logiciels pour aller pousser au bout. Enfin, vraiment des gens fantastiques, mais j'étais resté à un point eux-mêmes dans les faits. Enfin, vous voyez. Là, on tombe sur autre chose. On tombe vraiment sur la recherche des sons qui créent un langage, quelque chose comme ça. Et Françoise, là, c'est vraiment son domaine. C'est un vrai domaine de recherche.
Alors, je parlais du partenariat avec la briqueterie, je l'évoquais tout à l'heure. Il y a eu une résidence, c'est ça? Vous avez pu travailler
Alors oui, c'est la cocotte minute, la bouilleuse ou je ne sais pas quoi. C'est-à-dire, c'est le creuset, tout ce qu'on veut, ça rentre, ça sort. C'est un petit peu ce qu'on demande aussi à des friches ou autre chose, c'est-à-dire de faire venir des choses très différentes. Pas forcément être d'accord hein, sur des choses, mais voilà, il faut que ça bouge, il faut que ça pète un coup, il faut que ça machin, et ça, c'est bien. C'est très sain et je pense qu'il faut absolument que ce genre de lieu existe à côté de lieux très lourds à programmation pour finir très conformiste. Hein. Il faut chercher, il faut toujours s'émerveiller ou s'étonner ou être en colère hein, contre des nouveautés ou ce qu'on veut. Mais il faut des cocottes minutes, il faut des bouilleuses qui vont bouillir pendant... Voilà, il faut des fois pour qu'une recette fonctionne. C'est pas 3 minutes de micro-ondes, hein, c'est 12 heures ou ça peut faire 20 ans de blou-bloutage, blou-blou-blou-blou, ça commence à sentir bon, et là on dit ouais, enfin bon, c'est mystérieux. Donc il faut les rencontres, il faut des lieux multi, voilà, entrées, sorties multiples. Voilà. Moi ce que j'ai toujours voulu dans mes spectacles, c'est pas je recommence et gna gna gna, plein 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 plein, non, on rechamboule tout à chaque fois. Parce que si je tombe sur un lieu, là où on va jouer, c'est quand même une histoire ce lieu, quoi. C'est pas un cul de béton qu'on vient de fabriquer où il n'y a rien. C'est un ancien parquet de danse ambulant. Imaginez, chers auditeurs.
Le Micmac.
Instant, le Micmac. Non mais ça, c'est le nom d'origine de l'attraction foraine, qui était bien un parquet de danse. Imaginez tous là, une piste d'auto-tamponneuse, hein, mais avec des parois mises pour fermer le lieu. Et c'était un parquet de danse où des gens usaient leurs talons. C'est un lieu qui, ça raconte un lieu comme ça. Oh, des milliers de premières rencontres, de premiers baisers, ça raconte quelque chose.
Voilà, Micmac chargé en histoire, ce sera donc là-bas qu'on pourra découvrir donc, les quatre tableaux, c'est du 19 au 22 février. Oui. C'est des tableaux d'environ une heure et demie, c'est ça?
Oh là là.
En fonction de
ça
plein
dépend
de facteurs.
Si je suis méchant, si les gens sont gentils. Non, je garantis, hein, c'est un truc un peu spécial parce que bon... En fait, l'histoire, c'est ça. On dit, bien, retraduire ces tableaux, ça veut dire pour moi que ça va finir à chaque fois, chaque soir. Et c'est jamais le même sur un tableau que je vais faire en direct devant les gens d'à peu près 1,50 m sur 2 mètres. Bon, mais ça, c'est devant et avec. C'est bon. Mais après, il y a d'autres surprises, d'autres bazars, c'est pas fini. C'est-à-dire que le truc, c'est qu'on revoit, mais qu'est-ce qu'on vient de se dire? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc, ça rebondit, c'est joyeux. Donc, il n'y a rien. Je rassure tout le monde, il n'y a pas d'agression sur un public, mais bon. Des fois, il m'arrive d'avoir une tête de turc.
Et donc, vous nous donnez rendez-vous donc à 19h. Voilà, mercredi 19, jeudi 20, vendredi 21 et samedi 22 février. Voilà, ouais. on tease un peu l'événement. On peut pas en dire trop. Faut aussi garder un peu la surprise. Je sais pas si vous aviez quelque chose à ajouter avant qu'on termine cette interview.
Ah oui, alors surtout une grande chose, c'est que on peut parler de choses extrêmement dures, difficiles, agressives, n'importe quoi, mais surtout, il faut conserver cette joie du spectacle. Hein. Ça faut que ça reste de la joie. N'importe quel enseignant vous le dira, on ne fait pas entrer une règle mathématique à coup de marteau dans la tête d'un gamin. Il faut le faire rire, le faire jouer avec ça. Bon, c'est pareil. C'est-à-dire que on n'est pas là pour assommer les gens, on est là avant tout pour... Moi je tiens beaucoup, hein. Je commence à être un petit peu vieux dans l'échiquier Oui, vieux, ça va très vite. Hein. Et moi, j'ai connu les vrais sens de décentralisation culturelle, de politique des quartiers. Je peux en parler pendant des heures de ça. Et moi, je crois, hein, vous savez, j'ai un milieu qui n'est pas du tout culturel. Hein. C'est grâce à tout ça. C'est parce que j'ai eu des bibliothèques, des enseignants, parce que j'ai eu des scènes qui m'ont... J'ai découvert une de choses. Mes parents n'étaient jamais allés au théâtre. Si, ils lisaient pas mal. Hein. Ma mère lisait pas mal, oui. Mais ils n'étaient pas des culturels au sens strict. C'est-à-dire, ça appartient à tout le monde, à ceux qui veulent prendre. Et c'est ça qui est en débat dans ces années-là. Il faut mettre fin au diktat, si vous voulez. Mais moi, je me bagarre depuis tellement longtemps. Je n'ai pas fini, hein, ça ne sera jamais fini. Pour moi, ça appartient à tout le monde. C'est-à-dire que l'art, c'est tout le monde doit le fréquenter. C'est sain pour la santé, pour l'esprit, mais c'est la chose la plus joyeuse, la plus généreuse, qui n'est pas forcément liée à des choses d'argent. Parce que les gens sont noyés sous des soucis d'argent, du quotidien. Le loyer, manger... des contrats, machin, ce qu'on veut, n'importe quoi. Non, non, c'est le seul endroit, quand on danse, on ne pense plus à rien d'autre. C'est pour ça qu'il faut absolument que ces endroits, ces façons de faire, soient là, tout le temps. Il y a un truc très bien, d'ailleurs, vous savez, les boîtes de nuit, là, les fameuses, là, qui ont écrémé les trucs pendant peut-être 30 ans, là, elles ferment les unes après les autres. Eh ouais, prendre du boucan à fond dans les oreilles, sans pouvoir parler à son voisin, en payant très cher des choses qui ne valent pas grand-chose. En n'écoutant rien, en jouissant de rien, en n'en profitant pas, eh ben, les jeunes sont moins cons qu'on le pense, ils désertent. Ils veulent autre chose, ils veulent autre chose. Bon ben, qu'ils l'inventent, c'est bien. Moi, je suis toujours ravi. Hein.
Ben, merci en tout cas pour tous ces beaux messages et cette très riche interview, Olivier Suppes. Vous veniez nous présenter Médé 3D, donc un cycle de performance qu'on pourra découvrir au Micmac, je rappelle, du 19 au 22 février. Merci encore.
Vive Campus et que ça continue.